Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Union et Désunion, l'émission qui parle d'Europe, présentée par Ulysse Gounel et Nathan Daoudé von Troesfeik. Cette fois-ci, pour des raisons d'agenda, je présenterai seul l'émission, mais Nathan nous rejoindra à nouveau dès la prochaine fois. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des grands courants politiques qui ont marqué et continuent de façonner l'Europe. Et dans cet épisode, nous nous intéressons à l'un des principaux mouvements fédéralistes européens actuels, les jeunes européens. Pour en parler et pour mieux comprendre leur rôle, leurs objectifs et leur action sur le terrain, nous recevons Erwan Laurent, vice-président du mouvement européen des jeunes européens en France. Bonjour Erwan.
Bonjour Ulysse, merci beaucoup.
Alors Erwan, pour commencer, peut-être si tu peux te présenter pour qu'on sache mieux qui tu es.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Ulysse pour l'invitation. Je m'appelle donc Erwan et c'est toujours un plaisir de parler des jeunes européens et de notre engagement. J'ai 22 ans, ça fait 5 ans que j'ai rejoint les jeunes européens, tout d'abord au niveau local où j'étais engagé dans la région de Lorraine. Puis j'ai continué mon engagement au sein de l'équipe nationale des jeunes européens. Tout ça, c'est un engagement qui est bénévole, donc était à côté de mes études. Puisque j'ai étudié 2 ans en France, les sciences humaines et sociales, puis 2 ans en Allemagne, les sciences politiques, et je suis de retour en France depuis le mois de septembre de cette année où j'étudie les affaires européennes. Et à côté de cela, j'ai poursuivi mon engagement jeunes européens. Et actuellement, je suis en charge des relations publiques, du plaidoyer et des campagnes au sein de cette belle asso.
Et donc, concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi de s'occuper de tout ce genre de choses?
Alors, c'est assez intense, ça veut dire beaucoup de choses. Mais les jeunes européens, on est donc une association fédéraliste, association d'éducation populaire et de jeunesse. On a un réseau, donc on est présent dans 35 pays en Europe. Et nous, en France, donc je suis le vice-président en France, mais on existe grâce à notre réseau et grâce à nos sections locales. On est en présent environ une petite trentaine de villes en France. Donc, il y a tout un suivi d'accompagnement du réseau qui est fait par nous, l'équipe nationale. On a environ une vingtaine de personnes dans cette équipe nationale. Et puis, sur mon volet que je suis de mon côté dans mes missions sur les relations publiques, donc évidemment, on est dans un écosystème beaucoup plus large. On a beaucoup de partenaires de l'écosystème européen, partenaires de l'écosystème jeunesse, partenaires de l'écosystème éducation populaire. Et puis, on fait de la pédagogie, on fait de la sensibilisation. Et notre deuxième pilier, c'est une jambe militante. Donc ça, c'est tout le côté plaidoyer et campagne que je suis de mon côté avec mon équipe. Et on a 2 campagnes notamment qui nous attendent. Les municipales de l'année prochaine, les présidentielles l'année d'après. On sait que c'est toujours un enjeu particulièrement important de réussir à parler d'Europe via un prisme européen et pas seulement franco-français.
Et pour approfondir ce sujet, en fait, donc c'est quoi les jeunes européens? Pourquoi est-ce que vous existez? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de parler d'Europe aussi dans des élections qui ne sont pas européennes? Et donc oui, pourquoi cette association de manière générale?
Oui, alors je pense que pour comprendre aussi notre objet social, comme on appelle cela, quelle est la mission de notre association pour la société, il faut revenir à sa création, la création du mouvement. On a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Italie fasciste enferme des penseurs italiens sur l'île de Ventotene, au large de l'Italie, et donc il y a penseur avec d'autres, mais notamment Spinelli, qui rédige le manifeste de Spinelli, qui est un peu notre document référence pour nous les jeunes européens, et qui prépare l'après-guerre, et de dire que si on veut une Europe en paix après la guerre, la solution c'est le fédéralisme, c'est passer au-delà des États-nations, c'est mettre en commun nos compétences au niveau européen, pour rassembler les peuples. Et donc, le projet, il est résolument antifasciste dès le début. C'est un projet qui s'engage contre la lutte contre les idées d'extrême droite. Et donc, nous, on porte cette parole-là, ce plaidoyer dans les 35 pays en Europe. Et en France, on a notamment un pilier particulièrement important que j'ai mentionné juste avant, qui est la pédagogie. On est accrédité par l'éducation nationale pour intervenir dans des classes, notamment. C'est un programme qui s'appelle l'Europe par les jeunes, et on va faire de la sensibilisation, puisque quand on parle de citoyenneté aujourd'hui, bah, c'est pas seulement la citoyenneté française, mais c'est aussi la citoyenneté européenne. Et donc, nous, nos interventions, elles sont dans un cadre informel. Voilà, on est une association d'éducation populaire, donc on vient pas pour faire un cours, et puis on intervient aussi hors les murs, en dehors de l'école, dans différents lieux, enfin quartiers populaires, enfin centres scolaires. Cet enjeu-là de sensibilisation. Et puis, d'autre part, c'est porter notre plaidoyer, surtout les sujets européens, politiques européennes. Et là, on va plus interagir avec les partis politiques, puisque on a le pouvoir de mettre à l'agenda des sujets. Donc là, c'est aussi un travail de lobbying.
Et tu disais tout à l'heure donc que vous êtes fédéraliste, donc vous voulez dépasser les États-nations. Est-ce que ça veut dire que vous voulez les supprimer?
Alors, c'est toute la question du fédéralisme aussi, comment on définit ce qu'est le fédéralisme, puisque aussi dans le contexte actuel, on voit que c'est repris par certains leaders politiques, comme par exemple Mario Draghi qui parlait de fédéralisme pragmatique. Voilà, il y a différents courants aussi au sein du fédéralisme. Mais non, le fédéralisme, c'est pas effacer les États-nations, évidemment. C'est pas effacer les spécificités nationales, mais c'est permettre aussi, grâce à cette structure-là, de mieux respecter les minorités. C'est ce que permet aussi le fédéralisme. Et puis, c'est avant et surtout, permettre une Europe plus forte en ayant une plus grande intégration, en mettant en commun des pouvoirs partagés encore plus. On l'a déjà fait dans certains secteurs et c'est juste qu'on ne peut pas mettre le mot dessus, mais sur l'intégration en termes de justice, on a déjà atteint un niveau assez important de fédéralisme. Quand on a acheté des vaccins en commun, on a essayé de construire une Europe de la santé, c'est déjà une Europe du fédéralisme, et les spécificités nationales sont toujours là, elles peuvent coexister, elles coexistent même encore mieux dans ce modèle-là. Quand on a soutenu l'Ukraine et qu'on a acheté en commun des armes, c'est aussi du fédéralisme. Enfin, les États-nations ont renoncé à leur souveraineté d'acheter en propre des armes, et ça, on l'a fait en commun, voilà, en gros.
Et qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements pro-européens? On va sûrement en parler dans des prochaines émissions, comme le mouvement européen, l'Union des Européens fédéralistes. On a parlé dans l'émission du mois dernier aussi de l'Union pan-européenne internationale. Donc, qu'est-ce qui vous différencie de tout ce genre de mouvements?
Alors, nous, on a aussi une devise aux jeunes européens, en anglais, qui est « a generation ahead », en français, simplement « une génération d'avance ». Et ce qui est très caractéristique aussi dans ce mouvement, c'est le caractère visionnaire. C'est pour ça que quand on parle de fédéralisme, nous, on met l'objectif très loin. Évidemment qu'on aimerait pouvoir avoir une politique étrangère complètement commune, avec une seule voix, ça c'est l'objectif final. Et après, il y a des étapes entremis pour l'atteindre, mais l'objectif, lui, il est là. Et puis sur la dimension qu'on donne, il y a évidemment la dimension jeunesse qui est très importante, puisqu'on est une branche jeune de ce que peut être l'Union des fédéralistes européens, qui sont présents dans différents autres pays. Et nous, on porte aussi cette voix-là de la génération d'avance, de pousser les sujets fédéralistes, de les faire exister aussi dans le débat public, et de savoir les replacer aussi, puisqu'on voit que, comme dit, il y a beaucoup de leaders politiques qui peuvent utiliser ces mots-là, des fois sans forcément définir ou avec différentes définitions, et pousser aussi ces sujets, parfois même au sein de nos pays respectifs, pour faire avancer ce concept-là. On le voit aussi en France, dans le cadre des municipales, il y a certains leaders politiques qui commencent à parler aussi à une dose de fédéralisme en France. Donc voilà, nous, ce qui nous différencie d'autres mouvements, notamment l'Union des fédéralistes européens, c'est qu'on est la branche jeune, et d'autres mouvements pro-européens, c'est que nous, on plaide pour une Europe résolument fédérale, qui est l'objectif final, qui nous permettra, comme Spinelli le voulait, de permettre et de rendre toute guerre au final impossible entre nous, et aussi de faire barrage et lutte contre les nationalismes, ce qu'on voit particulièrement monter en ce moment, ce qui est inquiétant, et ce qui nécessite encore plus la mise en place et de pousser pour ce fédéralisme-là.
Bien, merci beaucoup. Je pense que ça va faire une magnifique transition vers la petite chronique d'actualité de ce mois-ci. Et aujourd'hui, je vais parler effectivement extrême droite et élections. Et en se posant la question, est-ce que l'extrême droite va forcément gagner ? Parce que souvent, en regardant les actualités, notamment les élections en Europe comme dans le monde, une forme de fatalisme peut nous atteindre. L'extrême droite progresse à chaque fois, et elle va inévitablement finir par gagner sans que l'on puisse y faire quoi que ce soit. Dans un certain sens, l'Europe serait donc condamnée. Mais est-ce vraiment le cas ? Le discours populiste d'extrême droite est-il vraiment impossible à vaincre ? Il est vrai qu'il est souvent difficile d'affronter les faux arguments populistes énoncés par les partis d'extrême droite. Toute leur force réside dans le fait que pour diffuser une fausse information, cela prend quelques secondes, alors que pour la démonter, cela prend plusieurs minutes. Pour s'opposer sans réfléchir et caricaturer des sujets pourtant fondamentaux, cela coûte très peu, alors qu'il faut un effort plus important pour aller dans le fond des choses. Cependant, les partis eurosceptiques ne sont pas infaillibles. On l'a vu récemment aux Pays-Bas, où le parti centriste D66 a remporté l'élection face au parti extrémiste de Geert Wilders, et ainsi, le prochain Premier ministre devrait être Rob Jetten, un jeune de 38 ans profondément européen. Cette victoire était inattendue. C'est la première fois que D66 remporte une élection depuis la création du parti en 1966. Et surtout, dans ce contexte de montée de l'extrême droite partout en Europe, peu s'attendaient à ce que la campagne tourne en la faveur d'un parti pro-européen. Toutefois, il ne faut pas oublier que si le principal parti d'extrême droite, le PVV de Geert Wilders, a chuté en siège, il reste à égalité avec les gagnants de D66, et l'extrême droite globalement a encore progressé avec d'autres plus petits partis qui ont gagné des sièges. Rob Jetten déclarait suite au résultat des élections « Je pense que nous avons maintenant montré au reste de l'Europe et au monde entier qu'il est possible de vaincre les mouvements populistes si vous faites campagne avec un message positif pour votre pays. » Alors, est-ce que cette victoire aux Pays-Bas est reproduisible en France ? Est-ce qu'il est encore possible de battre l'extrême droite en France ? Et quel rôle les mouvements comme les jeunes européens peuvent-ils y jouer ?
Alors oui, effectivement, c'est une question qui nous occupe beaucoup actuellement, et je la reformulerai aussi en disant quel rôle peut aujourd'hui jouer la société civile organisée en France et dans d'autres pays, parce que évidemment les jeunes européens ne changeront pas tout seuls la face du monde, et c'est aussi cette dynamique-là qu'on essaye d'impulser en termes de relations partenariales, en se rapprochant aussi d'autres partenaires où on peut se retrouver en fait autour de faire coalition autour de quelque chose qui sont des valeurs communes, des valeurs on pourrait dire européennes, mais qu'on peut retrouver dans d'autres parties du monde aussi, mais qui sont propres plutôt à la construction européenne de tolérance, de diversité, d'ouverture, de respect, de tolérance, et qu'on voit aujourd'hui qu'on peut créer des collectifs. Actuellement, il y a un collectif qui a été lancé qui s'appelle 1001 Territoires pour la Fraternité, qui rassemble des syndicats, mais étudiants, mais aussi de travailleurs, des assos. Nous, on en fait maintenant partie. Et on voit qu'en fait, on peut se retrouver, qu'on soit une association plutôt politique, une association aussi sportive, culturelle, des syndicats, derrière un message commun qu'on peut porter. Et après, au sein de ce mouvement, en fonction de d'où on vient, il y a évidemment une ADN qui est plus ou moins importante, mais on se retrouve tous derrière des idées communes aux jeunes européens. Évidemment qu'on a cette ADN-là qui est très forte de lutte contre les idées d'extrême droite. C'est là qu'est la racine de notre mouvement, l'antifascisme, lutter contre ces idées-là. Et puis aussi, on est une association d'éducation populaire. C'est là qu'on fait aussi corps avec d'autres associations d'éducation populaire, parce que l'éducation populaire, c'est pas seulement des instruments au service d'une sensibilisation, des méthodes informelles, mais ça se met évidemment au service d'un projet de société, de faire tous les citoyens éclairés, qui puissent aussi prendre des décisions en tant que citoyens, et c'est aussi une des branches, des deux branches de l'éducation populaire que parfois on a tendance à oublier dans cette atmosphère particulière en France. Bah, il y a encore plus une nécessité de dire que voilà, l'éducation populaire, on propose quelque chose, on propose un projet de société. Et je finirai là-dessus en réagissant à ce qu'a dit le gagnant aux élections aux Pays-Bas, qu'effectivement, on n'est pas seulement là à faire lutter contre quelque chose, parce que ça mènera à rien, même si c'est important, enfin, la lutte, la résistance, mais on propose quelque chose en retour, un message positif, un message d'espoir, un message alternatif de proposition pour la société.
Et donc, comme vous êtes un mouvement européen présent dans de nombreux pays, comment vous bénéficiez peut-être de l'expérience de vos collègues et camarades qui sont dans des pays déjà gouvernés par l'extrême droite? Est-ce qu'ils vous apportent des bonnes pratiques pour réussir à porter votre projet, même quand malheureusement les élections sont en faveur donc de ces mouvements eurosceptiques?
Oui, bah c'était le point suivant que j'avais aussi en tête. Je disais que oui, les jeunes Européens tout seuls, on peut faire des choses, on peut aussi impulser des dynamiques, mais enfin tout seul, en France, on n'arrivera à rien. On a besoin de société civile organisée, mais là où on a aussi un gros avantage, c'est notre vision européenne et qu'on interagit effectivement avec d'autres jeunes Européens dans d'autres pays. Donc on est présent dans 35 pays européens. Et on a aussi, du fait de l'actualité, qu'on a des élections qui arrivent au municipal, au mois de mars, et quand on analyse les résultats des élections présidentielles, en fait, c'est dans plus de 90% des communes en France qu'une liste du Rassemblement national était arrivée en tête lors des élections européennes. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils avaient plus de 50%, évidemment, mais ça peut être 13% et quand même être en tête dans la commune. Et puis, les présidentielles, donc on a impulser une dynamique au sein de notre réseau européen qui s'appelle la JEF Europe pour échanger avec d'autres sections de la JEF. Et là-dessus, évidemment, c'est notre force d'avoir cette plateforme-là européenne. Donc là, évidemment, les Italiens nous sont d'une aide particulièrement importante de voir ce qui se passe là-bas, comment ils réagissent avec les baisses de financement, voire plus de financement, comment aussi on se protège, parce qu'il y a beaucoup d'augmentation de haine, voire des attaques physiques dans le cadre de certaines de leurs interventions. On était aussi en lien avec les jeunes Européens aux Pays-Bas lors de cette campagne-là, où il y avait aussi le risque que l'extrême droite ait une victoire assez importante. Et puis, avec les Allemands, où ils mènent des campagnes aussi au niveau local, les Länder de l'Est, où l'AfD est aussi extrêmement forte. Au niveau fédéral, on n'est pas encore arrivé au point où l'AfD peut arriver au pouvoir du fait du fonctionnement de l'Allemagne, mais au niveau local, la question se pose. Et en tant qu'association transpartisane, on soutient aucun parti politique, mais évidemment, on s'engage pour des valeurs. Donc, dans toutes ces élections, qu'elles soient nationales, locales, européenne, on a aussi un rôle à jouer pour mettre en avant nos sujets européens et nos sujets, enfin les sujets des valeurs communes partagées, de faire société ensemble.
Et depuis le début, on a beaucoup parlé donc d'euroscepticisme de droite, mais comment est-ce que vous vous positionnez aussi par rapport aux euroscepticismes de gauche qui existent aussi?
Oui, alors ça c'est un grand débat aussi au sein de notre mouvement, puisque l'ADN, et ce qui fait aussi la force de notre mouvement, c'est qu'on a un mouvement qui est transpartisan. On est évidemment politique, puisqu'on porte une certaine idée de l'Europe, mais on a un mouvement transpartisan. Donc, on accueille au sein de notre mouvement toutes les sensibilités politiques, du moment qu'on se retrouve derrière des valeurs communes. Et donc, il y avait aussi ce débat-là, où s'arrête notre transpartisanisme. Notre transpartisanisme s'arrête évidemment à nos valeurs. Et donc, on a discuté, on met en place aussi une stratégie vis-à-vis de l'extrême droite, des idées d'extrême droite, puisqu'elles sont plurielles, de se dire qu'on ne peut pas débattre avec elles dans une manière formelle, sur un podium, pour passer ces dossiers, une manière de leur donner un espace où ils peuvent répandre leur haine. Et comme ça a été dit, les arguments avancés par l'extrême droite sont aussi extrêmement simplifie tout. Et derrière, nous, notre rôle, c'est de ramener cette complexité-là du monde, et donc en développant notamment des outils qu'on met à disposition de nos bénévoles, et que l'effort, il est notamment vis-à-vis des citoyens, et qu'on vote pour l'extrême droite pour plein d'autres raisons que forcément l'idéologie, là où les cadres du parti politique, ça devient déjà plus compliqué de discuter avec eux. Donc ça, en fait, on a vraiment identifié la lutte contre les idées d'extrême droite comme étant le péril le plus important, puisque, enfin, il inclut aussi plein de dimensions qui sont particulièrement dangereuses, qui nécessitent d'être particulièrement mobilisées là-dessus, sans oublier l'euroscepticisme de gauche, évidemment, mais qui lui est abordé de manière plus différente. Puisque les dangers sont différents aussi, ça passe plutôt par du dialogue, de la sensibilisation, là où la lutte contre les idées d'extrême droite, il y a quand même un risque pas mal de violence dans toute forme qu'elle soit, mais évidemment l'un n'exclut pas l'autre, mais il faut savoir aussi hiérarchiser le danger et mettre les priorités. Et donc voilà, nous, notre message, c'est de porter la bonne parole européenne où qu'on soit et où qu'on aille, mais en soulignant qu'on n'est évidemment pas des Eurobéa. On croit au projet européen et on pense qu'aujourd'hui c'est la solution, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'on n'est pas satisfait de cette Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc tous les eurosceptiques, il faut qu'on les convainque que l'Europe, elle est la solution, et que oui, on est d'accord avec certaines d'entre elles sur certains points, que l'Europe actuelle a bien des défauts, mais justement on est là pour proposer des propositions et aller plus loin sur le projet européen.
Et peut-être une dernière question, mais une question en soi assez vaste. On le voit dans de nombreuses études, et on le voit aussi aujourd'hui dans des pays comme la Hongrie, le rôle de la société civile dans les régimes autoritaires est essentiel pour faire tenir les institutions et la démocratie. En France, comment est-ce que tu perçois cet état de la société civile? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers qu'en tant que jeunes Européens, vous voyez? Et peut-être même si vous avez déjà des pistes de travail dessus, comment essayer de les préserver et de combler les trous?
Oui, alors ce sujet-là, on l'aborde aussi beaucoup dans nos différents espaces de discussion qu'on peut investir en tant que jeune européen avec d'autres assos d'éducation populaire ou de jeunesse. Aujourd'hui, il y a une société civile qui a beaucoup resserré ses liens, notamment par le choc l'année dernière avec les élections anticipées, où on a su se mobiliser en très peu de temps pour proposer quelque chose d'alternatif à ce que proposait l'extrême droite, et qu'il y a eu cette peur-là que l'extrême droite puisse déjà accéder au pouvoir. Donc on a vu notre capacité d'action, notre capacité de nous mobiliser rapidement et avec moins de moyens. Et je pense que cet aspect moins de moyens, il doit quand même attirer l'attention actuellement dans un contexte où il y a énormément de coupes budgétaires. Elles se dirigent notamment vers le milieu associatif, la société civile, et évidemment c'est affaiblir la société civile, c'est affaiblir les associations et affaiblir ce rôle aussi de contre-pouvoir qu'on peut jouer. Aujourd'hui, le fonctionnement, c'est souvent lié à de la commande publique. Ça veut dire qu'on est beaucoup dans un fonctionnement où les associations, la société civile, en fait, on répond à des appels à projets des pouvoirs publics. Donc, en fait, c'est compliqué pour nous aussi de porter nos propres sujets, de faire cette approche de bas en haut, puisqu'on souvent on répond aux besoins des pouvoirs publics. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'argent se fait de plus en plus rare, et qu'il y a aussi un milieu, une atmosphère de plus en plus hostile qui est alimentée par l'extrême droite et par le fait qu'il monte dans beaucoup de communes et en amont des municipales. Nous, on observe aussi ce risque-là de division. Enfin, on le savait déjà, entre les groupes. Ils cherchent à nous diviser entre les groupes, et maintenant, ils cherchent aussi à nous diviser entre les associations, en identifiant des associations qui seraient meilleures que d'autres. et en expliquant que voilà, bon, si tiens-toi sage, t'auras ton argent. Et donc, enfin, c'est compliqué aussi pour certaines associations au niveau local de se positionner là-dessus, parce qu'il y a un enjeu financier, mais aussi il y a un enjeu des valeurs là-dessus. Et donc, c'est pour ça que dans cette situation-là actuelle, où on se prépare à toute possibilité, il faut aussi avancer ce débat-là, nous, en tant que société civile, sur comment on veut se positionner, comment on veut réagir, et quels que soient les moyens, quel que soit le nombre qu'on sera, je me fais aucun doute sur notre capacité de réaction rapide et de résistance. Après, la question de la société civile, c'est toujours la question du temps, où en Hongrie, la société civile était assez forte au début, et puis on arrive à la tuer peu à peu. Donc ça, si ça se fait, ça se fera dans le long terme, et même avec des pouvoirs qui respectent la constitution, la démocratie, comme ça l'est actuellement, il y a quand même un point de vigilance où le climat fait qu'il est de plus en plus hostile aussi au monde associatif et à la société civile, parce qu'il y a une rhétorique qui est reproduite où chacun veut aller encore plus loin. Donc là-dessus, oui, il y a certainement un gros point de vigilance à avoir.
Eh bien, merci beaucoup Erwan pour toutes tes réponses. C'était très intéressant et je vois même qu'il y a encore beaucoup de matière à discuter. Peut-être que nous reparlerons des jeunes européens dans de futures émissions. Donc merci de t'être rendu disponible et puis on te souhaite évidemment le meilleur dans cet engagement fédéraliste. Et puis voilà, donc c'est déjà la fin de cette troisième émission d'Europe Union et Désunion. Nous espérons donc que l'écoute aura été agréable et que l'Union européenne ainsi racontée devient tout à coup plus intéressante. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux sociaux ou à vos proches. Et surtout, soyez européens.